Small is beautiful. Alors, traduction simultanée.
Voilà.
Ce qui est petit est beau. Bravo. Vous connaissez peut-être cette expression qui est au départ le titre d'un livre de l'économiste britannique Schumacher. Small is beautiful. Pourrait se traduire ainsi, ce qui est petit est bel et bon. Mais savez-vous comment Jésus-Christ pourrait détourner ce slogan pour l'appliquer au texte d'aujourd'hui? Je propose « Small is powerful », c'est-à-dire « Ce qui est petit est puissant ». La manière dont Jésus-Christ voit les hommes et le monde nous semble bien paradoxale. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres, nos chemins ne sont pas les siens. Cependant, le temps de l'Avent nous invite à la conversion pour nous rendre disponibles au regard de Dieu sur les situations humaines. Tout commence avec une question de Jean le Baptiste. Ce dernier en prison pour avoir osé dire la vérité au roi Hérode Antipas sur son mariage adultérin, a baptisé Jésus au Jourdain. Ses paroles alors semblaient indiquer qu'il reconnaissait en lui le Messie. Pourtant, de sa prison, Jean le Baptiste fait interroger Jésus. « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jean douterait-il donc? Estimerait-il s'être trompé quand il a reconnu en Jésus le Christ? Nous sommes parfois, comme Jean le Baptiste, dubitatifs. Nous aimerions que la puissance du Christ se manifeste de manière plus évidente pour que nous sachions à quoi nous en tenir. Mais, chers frères et sœurs, serait-ce encore de la foi? Pour répondre à la question posée par Jean, Jésus ne dit pas seulement « oui » ou « non ». Il veut laisser à autrui la liberté de poser un acte de foi. Ainsi, à celui que bien des gens en Israël considèrent comme un prophète, Jésus fait adresser une réponse de prophète. En effet, citant presque mot à mot des versets du livre d'Isaïe que nous avons entendu dans la première lecture, Jésus fait comprendre que les miracles opérés pour rendre la santé et la vie et l'annonce de la bonne nouvelle sont autant de signes que la prophétie se réalise. Pour les Juifs de l'époque, entendre et voir que les aveugles retrouvent la vue, que les boiteux marchent, que les lépreux sont purifiés, que les sourds entendent, que les morts ressuscitent et que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, c'est un peu comme pour les résistants français en 1944 avec la chanson d'automne de Verlaine. Les sanglots des violons de l'automne voilà, bercent mon cœur d'une langueur monotone. Vous avez la suite et pof, c'est le débarquement. Jésus fait comprendre à Jean le Baptiste qu'on peut voir la gloire du Seigneur et qu'il est bien le Messie annoncé. Preuve des Écritures à l'appui. Jésus, à première vue, ne fait pas partie des grands de ce monde. Mais combien grande est sa puissance? Ce qui est petit est puissant. Dans un deuxième temps, Jésus s'adresse aux foules et complète la réponse qu'il vient de faire. Si Jean le Baptiste est dans l'incertitude quant à l'identité du Christ, combien plus les foules qui suivent Jésus doivent se poser des questions? Une mise au point qui respecte la liberté de chacun de croire ou de ne pas croire s'avère donc nécessaire. Jésus commence par tester les motivations profondes de ses interlocuteurs. Qu'êtes-vous allé regarder? Qu'êtes-vous allé voir? Comme nous le dirions aujourd'hui, Jean le Baptiste a fait le buzz avec sa tunique en poil de chameau et ses paroles provocantes. Ainsi que le rapporte le passage d'Évangile entendu la semaine dernière, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Jésus pose des questions de pure forme, car il sait bien que les foules ne sont pas venues à Jean pour entendre des paroles flatteuses et fluctuantes, ni pour admirer les raffinements d'un courtisan. Non. Les gens sont venus entendre et voir un prophète, le nouvel Élie, chargé de ramener le cœur des hommes à Dieu. Nous aussi, nous aimons les figures prophétiques, souvent les prophètes de malheur. D'ailleurs, c'est un mal bien français que de cultiver l'auto-dénigrement et le catastrophisme, comme si secrètement nous espérions que les paroles négatives permettent d'exorciser le mal dont nous craignons de souffrir. Parfois, tout de même, nous portons un véritable intérêt à des prophètes de bonheur, qui savent discerner la lumière dans la nuit. Je pense à des figures comme l'abbé Pierre, Mère Teresa, Sœur Emmanuel, le pape François, et il y a certainement d'autres vivants. Jésus le déclare. Jean est pourtant plus qu'un prophète. Citant à nouveau les Écritures, il compare le Baptiste à un ange, c'est-à-dire angelos, en grec, à un messager, pour préparer le chemin devant l'homme et devant Dieu. Jean est un précurseur. Il ouvre la route pour l'humanité, afin qu'elle vienne au désert rencontrer son Dieu. Jean précède Dieu venu en notre chair, et par ses paroles et gestes, ménage à celui-ci un accès vers le cœur des hommes. La présentation de Jean par Jésus finit à nouveau par un paradoxe. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Comment résoudre cette apparente contradiction ? Jean est le plus grand et moins grand que le plus petit. Soit nous comprenons que Jean est tellement humble que même le plus petit est plus grand que lui, c'est une interprétation possible. Soit nous comprenons que Jésus répond à nouveau à la question posée sur son identité à lui de manière allusive. Dans un sermon, l'abbé Huvelin, ami et père spirituel de Saint-Charles de Foucault, s'adressait à Jésus en ces termes. Vous avez tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu vous la ravir. Le plus petit dans le royaume des cieux que Jésus vient inaugurer, n'est-ce pas Jésus lui-même qui surpasse en humilité Jean, le plus grand des humbles ? Le Baptiste annonce que le royaume des cieux est tout proche. Jésus, en réalisant les prophéties d'Isaïe, manifeste que le royaume des cieux s'est déjà approché de nous en sa personne. Dans les 10 jours qui nous séparent de Noël, un peu plus même, frères et sœurs, laissons-nous toucher par l'humilité de Jésus, qui par amour pour nous s'est fait si petit. Comme nous le suggère le pape François dans un très beau texte sur l'admirable signe de la crèche, que je vous invite à lire et à méditer, il est sorti il y a quelques années. Les conditions de la naissance de Jésus nous parlent de Dieu, de son amour infini pour chacun de nous, un amour qui n'écrase et n'exclut personne, mais dont la puissance se dit dans la petitesse d'un enfant. Small is powerful. Dans le dessein du salut de Dieu, ce qui est petit est puissant. Amen.